Bonjour à toutes et à tous, je suis très, très heureux et très fier également de pouvoir participer avec vous et au club et aux travaux de ce matin. On ne va pas parler du monde qui change, même si on l'a bien vu, tous les repères, les modes de vie commencent à évoluer. On va parler de ce contexte-là, mais dans ce contexte-là, on va voir un petit peu comment cette nouvelle génération, celle qu'on appelle la génération Y, se comporte. Depuis maintenant quelques années, Papy Boom va provoquer une véritable pénurie sur le marché du travail, hein, dans quelques années, pénurie annoncée. Il y a fort à parier que cette situation va permettre à des jeunes issus de la génération Y donc, d'imposer leur façon de voir les choses. Parmi les caractéristiques, mais je pense qu'on aura l'occasion de détailler ce premier cliché ou aperçu, c'est la facilité avec laquelle les 25-35 ans démissionnent, ils quittent leur entreprise dès qu'ils s'ennuient. C'est une forme de désinvolture qui inquiète les DRH et risque de changer la donne sociale dans les années à venir. Les entreprises vont donc devoir remettre à plat leur gestion des ressources humaines pour celles qui n'ont pas déjà commencé de le faire. Le monde du travail fait face donc aujourd'hui à une révolution culturelle. Comprendre cette jeune génération née des années 80, répondre à ses attentes, est bien un défi majeur pour les entreprises en France, en Allemagne et plus largement en Europe. Alors pour parler de ces questions-là, on va s'appuyer, comme l'a dit Olivier, sur quelques experts. Didier Pitlet, bonjour Didier, qui est là. Je vous présenterai plus dans le détail tout à l'heure, mais en un mot, vous avez inventé le concept de marque employeur. Et puis après, plus d'infos, c'est un petit tease que je fais pour vous présenter un peu plus tard, dans quelques instants, je vous laisserai la parole. Philippe Gustin, qui est directeur de cabinet, entre autres, de Luc Châtel, mais un long parcours et une très bonne, bien sûr, connaissance de ces questions-là. On aura l'occasion également d'entendre Philippe Pierre, qui est docteur en sociologie de l'Institut d'études politiques de Paris. Bonjour, docteur. Et puis on s'appuiera également sur Florence Prieur, qui a co-dirigé un ouvrage sur les jeunes et l'emploi, à paraître le 13 octobre. Je ne sais pas si... Elle arrive. Donc, mais au moins, elle aura été présentée. Eric Faure, que j'ai vu, qui est directeur de corrélation. Voilà, bonjour à vous, Florence. Installez-vous. Voilà, Christelle Verquin également, qui devrait arriver peut-être dans quelques instants. C'est plus... Voilà. Et puis d'autres témoignages, bien évidemment. Peut-être pour structurer un petit peu ce débat, quatre grands temps, essayer de comprendre d'abord ce qu'est la génération Y, qu'est-ce qui la caractérise. Puis après, on rentrera dans trois temps, si vous le voulez bien, hein, si les débats le permettent, bien évidemment. Je suis autoritaire, mais avec une forme de souplesse quand même liée à la dynamique collective de nos débats. D'abord, comprendre bien sûr les attentes de la jeune génération par rapport à l'entreprise, au monde du travail, temps 1. Temps 2, je vais pouvoir explorer deux temps ensuite, c'est le temps du recrutement. Comment être attractif pour cette jeune génération quand on est entrepreneur. Et puis ensuite, la gestion dans le temps et dans l'entreprise des carrières et de la mobilité. On sait que la mobilité ou l'exigence de mouvement est une des caractéristiques fortes de cette génération Y. Voilà pour les règles du jeu. Bien évidemment, Olivier l'a dit, je le rappelle, la parole est complètement ouverte et libre et tout le monde peut à tout moment interagir dans le respect de la dynamique, bien sûr, collective. Mais tout de suite, on a le plaisir d'être chez Bosch. Je propose de passer la parole à Guy Maugis, le président de Bosch France, pour quelques mots d'accueil et peut-être de cadrer un petit peu le sujet de votre expérience personnelle.
Merci. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. On est très, très, très contents de vous accueillir ici, même si la circulation sur l'avenue Michelin n'est pas toujours très simple, ce qui peut expliquer quelques retards. Donc, très rapidement, je pense que vous le savez, pourquoi intervient-on dans ce débat? Bon, Bosch est une entreprise allemande, présente en France depuis une bonne centaine d'années. Et nous devons bien conjuguer le multiculturel franco-allemand au quotidien. Et malgré la crise que nous avons connue l'an dernier, qui était la pire de toute l'histoire de l'industrie, nous avons continué à prendre des apprentis. On a moins embauché, voire pas embauché beaucoup, parce que quand on est en chômage technique pratiquement 15 jours par semaine dans des usines, c'est pas forcément très facile. Mais nous avons continué à garder des apprentis, y compris au niveau du groupe, simplement parce que nous avons la chance, de par notre structure assez particulière, comme vous le savez sans doute, nous appartenons à une fondation Nous ne sommes pas cotés, ce qui nous permet d'avoir une réflexion, une vision à beaucoup plus long terme. Et nous avons continué, y compris pendant la crise, à consacrer des sommes importantes à la recherche et au développement, parce que c'est dans la recherche et dans le développement qu'on voit notre croissance future avec des nouveaux produits. Et généralement, le pourcentage de jeunes dans la R&D est plus élevé que dans d'autres activités. C'est plutôt là qu'ils commencent leur carrière et c'est souvent là qu'ils ont envie de commencer leur carrière. Donc on est évidemment très, très intéressé à ce double débat multiculturalisme et jeunesse. Comment voit-on les jeunes chez Bosch aujourd'hui? Je veux dire, on les voit avec... C'est des regards différents selon nos âges, selon nos expériences. Ce que je peux dire, c'est que je ne partage pas vraiment l'idée de beaucoup de mes collègues dirigeants d'entreprise, comme quoi cette génération est difficile à gérer et compliquée. Je pense, et ça c'est en forme de plaisanterie, que ma génération, qui, quand elle était à l'école et juste avant d'entrer dans le monde de l'entreprise, lançait des pavés sur les CRS, n'était pas forcément beaucoup plus facile à gérer. Et elle était probablement aussi incompréhensible pour nos aînés que cette génération Y l'est aujourd'hui pour certains d'entre nous. Je crois que la grande difficulté que nous avons en tant que dirigeants, c'est de donner du sens à ce que font ces jeunes qui sont beaucoup plus exigeants que nous l'étions finalement. Puisque je dirais que ma génération, quand on rentrait dans l'entreprise, finalement, on était quand même assez formaté pour faire ce que nos parents nous avaient demandé de faire, avec une forme d'obéissance, malgré tout, et malgré ces poussées de révolutionnaires de temps en temps, finalement, une certaine forme d'obéissance qui consistait à faire bien ce qu'on nous avait demandé de faire à l'école comme dans l'entreprise, et sans se poser beaucoup plus de questions. Et en pensant que finalement, le respect de la règle suffisait pour arriver à une certaine forme de réussite professionnelle. Aujourd'hui, on a affaire à des jeunes que je considère comme beaucoup plus mûrs, comme ayant beaucoup plus réfléchi à ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Et ils nous amènent une exigence qui est de donner du sens à ce qu'ils font, de l'intérêt, et évidemment de renouveler cet intérêt, parce que c'est vrai que la lassitude vient un petit peu plus vite. Et la grosse difficulté, c'est de l'organiser dans l'entreprise, donc de toujours leur apporter quelque chose de nouveau, de leur apporter la part de liberté qu'ils réclament, et à juste titre, pour éviter l'ennui, le tout dans des organisations qui deviennent de plus en plus normées et qui fonctionnent de plus en plus au travers de process, parce que c'est l'évolution normale, en tout cas dans de la production ou même dans des processus administratifs, qui est l'évolution qui est de refuser toute forme d'erreur, puisque l'erreur est inadmissible, notamment quand on fait comme nous, par exemple, des produits de sécurité. Il est évident que le défaut est inacceptable. Donc cela amène à mettre en place des normes, des règles et des process qui sont assez contraignants. Et d'arriver à conjuguer à la fois cette norme et cette liberté et cette créativité qui est réclamée est un point relativement délicat. Voilà peut-être un premier point d'accroche, mais on a certainement beaucoup d'autres. Mais nous continuons à prendre des apprentis. On est toujours très, très, très heureux de la collaboration et aussi de l'engagement, curieusement et contrairement à ce qu'on peut entendre, de l'engagement que les jeunes mettent dans l'entreprise avec quand on arrive à leur donner de l'intérêt et un minimum de responsabilité autour de quelque chose, quand en gros ils savent à quoi ils servent et pourquoi ils sont là, on arrive à avoir un engagement qui est très très fort et même quelquefois au-delà du raisonnable.
Merci. Peut-être un rebond, une réaction liée à votre expérience personnelle. Vous avez constaté l'existence d'une génération avec un type de comportement, plus de lassitude, une plus grande exigence, plus de sens. Ou est-ce que c'est une évolution normale, logique, du rapport de l'individu au travail, avec peut-être un coefficient un peu plus fort chez les plus jeunes? Est-ce qu'il y a une rupture avec une classe d'âge, ou est-ce que c'est une évolution plus logique, plus normale, plus naturelle?
Moi, j'y vois plus un continuum avec, on ne peut pas dire des ruptures, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes essentiellement, pour moi, rythmées par les changements technologiques. Ma génération, bon, j'ai 57 ans, mais est à la frontière entre ceux qui savent se servir d'un clavier et ceux qui ne savent pas. Et on constate que plutôt avec à 60 ans, on a quand même du mal. À 53, 54, c'est pas un problème. Bon, et on a un peu le même, je dirais, les mêmes ruptures avec la relation Internet, la relation aux réseaux sociaux. Évidemment, un continuum, mais quand même. Et je crois plus à cette révolution technologique comme ayant modifié fondamentalement le rapport au travail. Et sinon, l'évolution, je dirais, au niveau des mentalités, pour moi, elle est plus continue, mais elle va vraiment vers une réflexion qui est, de la part des jeunes, c'est pourquoi je travaille. Et non plus, je ne travaille pas non plus uniquement pour assurer, je dirais, les besoins minimums, je ne vais pas dire qui étaient ceux de la génération des baby-boomers, qui étaient pouvoir s'acheter la machine à laver, le réfrigérateur et la voiture, hein, mais beaucoup plus déjà une réflexion. Alors il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que ce n'est pas vrai dans tous les milieux, ce n'est pas vrai dans toutes les entreprises, ce n'est pas vrai partout, mais on a peut-être plus la chance d'embaucher des gens plutôt avec des niveaux bac plus 5 ou ingénieur ou école de commerce, qui ont des exigences un petit peu plus existentielles de respect et d'intérêt. Bon, et ça, ce glissement, pour moi, il était progressif.
Merci. Alors, premier temps, peut-être, à partir de votre éclairage et vision personnelle, voir avec Didier Pitlet, un petit peu quelles sont les caractéristiques de cette jeune génération. Vous avez vous-même cité quelques-unes. Alors, on parle bien sûr de génération Y, ou éco-boomers, ou digital natives, ou d'autres appellations que Didier connaît facilement et abondamment. Donc, Didier a inventé ou créé le concept de marque employeur et le marketing social. Il a fondé Guillaume Tell. Ensuite, il a pris la direction de Publicis Consultant RH. Et lancé On The Moon, première agence 100% marketing social, et The Global Network, qui est un réseau d'entreprises indépendantes dédié aux enjeux humains dans l'entreprise. Et puis plusieurs ouvrages, dont le dernier, La nouvelle parole de l'entreprise en 2005, ou encore L'avenir des jeunes en 2002. Peut-être Didier, justement, en quelques minutes ou quelques grandes lignes, essayer de nous donner les caractéristiques principales de cette génération.
Oui, je m'approprie évidemment les propos qui viennent d'être tenus en apportant un éclairage au niveau du périmètre de cette génération. Je crois qu'elle est loin d'être aussi homogène qu'on veut bien le lire un petit peu partout. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de points communs entre un jeune qui est sorti en 2009 du contexte scolaire, puisque deux tiers des jeunes diplômés sortis en 2009 sont encore sur le carreau aujourd'hui. Et le jeune sorti 2 ans plus tôt, où les entreprises déroulaient le tapis rouge et c'était la vedette. Donc évidemment, ça crée des différences comportementales, des réflexes par rapport aux entreprises. Donc il faut faire attention à ne pas créer un moule identitaire à une génération. Ça, évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Au plan national, au plan international. La jeunesse dite génération Y à la française a des vraies nuances par rapport à la génération Y dans d'autres pays, ne serait-ce que par l'impact relativement désastreux qui maintenant est bien ancré des 35 heures, qui a fait prendre en France un recul réel par rapport à la valeur du travail, où les jeunes générations, pas la génération Y, ce qu'on commence à appeler la génération Z, commence à revenir dessus. Hein. En l'occurrence, la valeur travail est en train de remonter assez sensiblement chez les jeunes. Je vous donnerai tout à l'heure quelques chiffres qui viennent de sortir qui sont assez édifiants. Mais pour bien comprendre, je crois qu'il faut avoir à l'esprit que cette génération, c'est à la fois celle des enfants rois qui ont été élevés à ce niveau par une politique de marketing qui fait que dès qu'on a un biberon, on a un pouvoir d'achat. Et quand on a 15, 16, 18, 20 ans, on a un vrai pouvoir d'achat parce qu'on a tout de suite, la dernière console de jeu, le dernier ordinateur, accès Internet, etc., etc., etc. Donc, avant même de travailler, on a un pouvoir d'achat, ce qui est d'ailleurs un vrai drame pour les jeunes quand ils entrent dans la vie active, c'est que souvent il y a un décrochage de pouvoir d'achat par rapport au confort de vie chez papa-maman. Donc, il y a cette génération des enfants rois qui se confrontent à toutes les générations dans l'entreprise, qui sont plutôt les générations de tous les sacrifices. Puisque dans l'absolu, là, nous assistons à la troisième génération Kleenex en l'espace de 30 ans. Bon. Et très clairement, cette réalité a forgé le caractère de cette génération Y qui a des postulats. Elle ne fait pas confiance. Elle ne fait pas confiance à la parole de l'entreprise. Elle aimerait lui faire confiance, ça c'est évident. Mais elle ne fait pas confiance parce que au quotidien, elle a un lot considérable de preuves qui démentent les beaux discours RH et les beaux discours corporate sur le thème « mon capital humain, ma richesse c'est les hommes », etc. Ouais. Donc elle a une grille de lecture qui est extrêmement froide par rapport au monde de l'entreprise. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est la génération de l'immédiateté et des réseaux. Ça, c'est évident. Et la génération qui arrive derrière, vous allez voir, c'est un big bang qu'elle va amener dans l'entreprise. On pourra débattre de cela tout à l'heure, parce qu'elle, elle est beaucoup plus virulente sur les enjeux de transparence encore que la génération Y. Mais elle, c'est une génération de tribus. Elle accepte l'idée que tout est censé pouvoir se partager. Elle ne comprend pas les cloisonnements dans le monde de l'entreprise par rapport au monde ouvert dans lequel elle évolue. Elle ne comprend pas l'autorité top-down qui n'est pas basée sur l'exemplarité. Ça, c'est rédhibitoire. Mettez un jeune de la génération Y entre les mains d'un petit chef Fayon, vous êtes sûr que 6 mois plus tard, il donne sa démission. Parce que, effectivement, comme on l'a rappelé, c'est une génération qui veut comprendre le sens de l'action. Donc, c'est une génération extrêmement exigeante parce qu'elle ne délègue pas à l'entreprise le droit de gérer sa vie. C'est-à-dire, un des clèmes de cette génération, c'est surtout « je ne veux pas perdre ma vie à la gagner ». Bon, ça, c'est assez récurrent. Effectivement, c'est une rupture par rapport peut-être à d'autres, aux générations antérieures. Mais surtout, elle veut s'épanouir. Qu'est-ce que ça veut dire s'épanouir quand aujourd'hui les entreprises sont pilotées à vue? Qu'est-ce que ça veut dire s'épanouir quand les stratégies font un pas en avant, deux pas en arrière? Regardez, avec la crise qui a sévi depuis 2008, les politiques de stop and go sur le front de l'emploi. Elles ne peuvent pas comprendre qu'il n'y a pas un devoir moral des entreprises d'insertion des jeunes. Ça, quand on est jeune, on ne peut pas le comprendre. Quand on reste un an au chômage, on a fait Bac plus 5, et que globalement on lit partout les engagements des entreprises, etc., que de surcroît, chez soi, papa, maman vous dit « attends, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, et puis de toute façon, méfie-toi ». Parce qu'il y a une véritable solidarité intergénérationnelle. Les aînés reconnaissent aux jeunes le fait qu'ils ont raison d'être aussi acides par rapport au monde de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont déjà donné. Ils ont déjà donné. Et donc, cette sédimentation d'une sorte de yo-yo social de ces 30 dernières années explique beaucoup le comportement de ces jeunes. Troisième point plutôt, qui est très, très impactant dans le comportement de ces jeunes, c'est naturellement l'explosion d'Internet. Aujourd'hui, cette génération qui court après le sens, qui veut donner du sens à son quotidien, qui rêve d'une valorisation sociale par son travail personnel, c'est-à-dire être fier de ce que je fais, eh bien, elle est l'acteur majeur des réseaux sociaux, elle est l'acteur majeur de ce qu'on appelle le web 2.0, où concrètement, tout se sait, tout se dit en temps réel sur les entreprises. L'entreprise qui n'a de cesse de dire, moi, mes hommes, mes femmes, je fais confiance, le capital humain, c'est formidable. La plupart du temps, quand on dit à un dirigeant d'entreprise, ben, si c'est vraiment vrai, faites un blog de collaborateurs, libérez la parole, et effectivement, laissez les gens s'exprimer librement pour échanger sur leur quotidien. 9 fois sur 10, la réponse est de dire, oui, mais comment on contrôle? Donc, il y a un grand décalage, naturellement, entre la parole et l'acte. Le seul problème, c'est pour ces jeunes générations, ce décalage, il est inacceptable. Et donc, ils sont bien plus malins et bien plus matures que les entreprises pour savoir quelle est la vraie vie dans telle ou telle ou telle ou telle entreprise. Et là, je vous assure, le jugement et la rumeur négative ou positive qui peut en découler, eh bien, à ce moment, l'entreprise, même si elle est experte en communication, elle ne peut rien maîtriser. Elle ne peut rien maîtriser. Donc, cette génération amorce, j'espère en tous les cas, la reconquête d'une forme d'exemplarité. Alors, c'est un peu d'utopie à l'instant T. Mais je pense qu'elle sera tellement exigeante dans les actes concrets des entreprises que les entreprises ne pourront pas faire autrement que de travailler une logique d'exemplarité au niveau du management, une logique de preuve au niveau de leur communication, pour espérer attirer, évidemment, ces publics. Dernier point, pour ne pas faire trop long, souvent, quand on entend les personnes, on va dire, plus âgées, plus seniors, On entend beaucoup de réflexes, beaucoup de raccourcis. Les jeunes veulent moins bosser, les jeunes sont moins engagés, etc. Bon. C'est totalement l'inverse dans l'esprit de ces jeunes. Je vais vous donner quelques chiffres que je vais vous faire partager, parce que comme ça, ça comprendra bien le débat. Il y a un sondage qui est sorti là en début de semaine par l'IFOP et qui conforte complètement un sondage de l'année dernière. 78% des jeunes 16-30 ans et 70% des garçons et 70% des femmes sont parfaitement confiants en l'avenir. Parfaitement confiants en l'avenir.
En leur avenir.
En l'avenir. En leur avenir. Et ils sont 82% des étudiants qui pensent qu'ils trouveront un emploi correspondant à ce qu'ils souhaitent. Bon. Ça, c'est déjà une donnée. Ils ont intégré, évidemment, l'effet de la bascule démographique qui fait que, de toute façon, il n'y aura pas assez de jeunes sur le marché et que, globalement, on va y aller. Mais là où c'est plus intéressant, c'est un sondage qui compare les réponses des adultes à celles des jeunes. À la question, dans quelques années, professionnellement, que feront-ils ? La plupart des adultes répondent en premier, ils veulent devenir fonctionnaires. Parce qu'on a encore à l'esprit les crises précédentes où il y avait 82% d'une tranche d'âge qui, systématiquement, voulait être fonctionnaire. Aujourd'hui, c'est fini. Il y en a 23% dans l'absolu qui va être fonctionnaire. Donc c'est quand même assez édifiant. Par contre,
Chez les jeunes,
absolument. En premier, ils répondent à cette question, comment vous voyez votre avenir professionnel? Ils disent en premier, les 15-24 ans, monter une entreprise. 40% des jeunes, 15-24 ans, monter une entreprise. Deuxième, à 39%, travailler dans une entreprise privée. Et dans une entreprise privée, il y a un énorme décalage qui est en train de se créer chez les jeunes entre l'entreprise cotée et l'entreprise non cotée, notamment d'obédience familiale. Pourquoi ? Parce que l'entreprise cotée incarne à leurs yeux la déshumanisation du rapport au travail, où globalement, il n'y a que le taux débit qui compte, et tous les grands discours, évidemment, ça ne fait pas long feu devant cela. Quels sont les deux objectifs qui définissent les mieux les 15-24 ans ? Les adultes répondent, ils sont inquiets, et ils sont révoltés. Les jeunes répondent, nous sommes ambitieux, tranquilles, autonomes. Donc vous voyez à quel point il faut revisiter les grilles de lecture. Quel droit faut-il promouvoir en priorité aujourd'hui en France ? Le sondage ne portait pas sur l'Allemagne, mais on peut sûrement faire une projection. Là, il y a un point commun entre adultes et jeunes, c'est le travail pour tous. Le travail, et on le voit dans les derniers sondages qui viennent de paraître, le travail est une priorité essentielle de l'existence. Donc on n'est plus dans le travail que l'on a caricaturé trop longtemps en France, on est dans le travail de la réalisation. Le défi pour les entreprises, c'est de prouver quels sont des lieux de réalisation à la fois individuelle et collectif. Et enfin, là aussi, idée reçue, quelles sont les valeurs prioritaires pour ces jeunes ? Les adultes disent en premier les amis, les jeunes répondent en premier la famille. Voilà, pour vous peindre...
Alors, peut-être un point sur le rapport à l'intérêt général ou à l'entreprise. Vous avez insisté sur le fait que il développait des communautés, des tribus, il y avait ce mode de fonctionnement 2.0 qui était complètement intégré maintenant. À l'inverse, on a l'impression qu'ils sont certainement plus égoïstes, en tout cas, concernant leur propre regard sur leur... à l'instant, le président de Bosch vient de dire qu'effectivement, leur rapport à l'entreprise était assez court-termiste, qu'ils n'ont plus d'intérêt, il y a une lassitude. Donc, quel est ce rapport entre l'égoïsme ou le moi pour être plus général et puis la relation à l'autre et à la collectivité.
Alors Joël de René parle d'égologie. Moi je n'utiliserai pas le mot égoïste parce que fondamentalement j'anime beaucoup de tables rondes avec des jeunes, etc. Je rencontre majoritairement des jeunes extrêmement généreux. Donc moi je ne les qualifie pas d'égoïstes. Par contre ils sont d'une prudence extrême, bien évidemment, parce qu'ils ont tellement été imprégnés de mauvaises histoires par rapport au monde du travail. Pensez que 75% de cette tranche d'âge-là ne veut surtout pas ressembler au patron en place. Hein? 75%. C'est quand même édifiant.
Ça n'a pas été fait ici.
Non, évidemment. Non, ça, c'est hors de cette enceinte. Mais l'année dernière, mon dernier bouquin, c'est pas Les Nouvelles Paroles, c'était Les patrons sont morts, vive les patrons, que j'ai sorti l'année dernière, et j'avais sondé pas mal de jeunes. Mais la raison majeure, c'est la prise à défaut des dirigeants entre le décalage, entre le discours et la réalité. Donc, ils ne sont pas égoïstes, ils veulent des preuves. Leurs attentes en termes d'investissement, et c'est là où c'est un vrai changement pour l'entreprise, dans beaucoup, au niveau des mentalités, notamment au niveau des modèles de management. Souvent, le modèle de management est plutôt fondé sur l'autorité. Eux, ils le fondent sur l'exemplarité, premier aspect. La durabilité dans l'entreprise est synonyme de gestion de carrière. Eux, ils ne confient pas à l'entreprise le soin de gérer la carrière. Ils attendent des possibles, bien évidemment, mais ils ne veulent pas qu'on les mette case A, case B, case C, 2 ans, 3 ans, etc. Ça, c'est un mode qui a tendance à les enfermer. Donc, ils ont relativement peur de cela. Par contre, ça impose à l'entreprise de les faire vivre dans un mode projet. Et cette notion, ce mot projet, est vraiment le mot qui les caractérise au plus haut point.
Merci beaucoup pour ce premier éclairage avec... une définition, des caractéristiques extrêmement précises. Peut-être un focus particulier sur l'Allemagne avec Iris Hartel, qui est journaliste à Arte notamment.
Alors moi, personnellement, j'ai jamais travaillé en Allemagne parce que j'ai fait mes études en France et j'ai commencé à travailler ici. Mais j'ai quand même beaucoup d'amis qui vivent en Allemagne. Et mes amis à moi ont tous fait des études. Et il y a une chose qui revient tout le temps, c'est que leurs parents et surtout leurs grands-parents comprennent pas du tout qu'aujourd'hui il faut être plus flexible, il faut être prête à changer de poste tous les 2 ans ou tous les 3 ans, que c'est comme ça aujourd'hui. Et pour nos parents, nos grands-parents, flexibilité signifie précarité, et pour eux ça veut dire que on n'a pas réussi quelque chose dans la vie si on est dans cette situation-là. Et ça, c'est la même chose pour la France et pour l'Allemagne. Et il y a beaucoup de jeunes diplômés qui se demandent en Allemagne pourquoi ils ont fait des études. Parce que ils ont des copains qui ont fait une formation, qui ont commencé à travailler très tôt et qui ont un salaire... Tout à fait digne, si je peux dire. Alors que eux, qu'ils ont fait des études pendant des années, qu'ils ont investi beaucoup d'argent, qu'ils sont toujours dépendants de leurs parents, ça c'est très important aussi. C'est très gênant de rester dépendant de ses parents pendant très longtemps. Et que après, quand il faut s'intégrer au monde du travail, ils constatent que malgré toutes les études qu'ils ont faites, tous les stages qu'ils ont réalisés et tout, on ne leur fait pas confiance. Parce que les chefs d'entreprise, très souvent, ils pensent qu'on sort de l'université et on a déjà 3 ans d'expérience, alors que ce n'est pas possible et un jour, il faut bien commencer. Et on a un peu l'impression que de façon générale, en France et en Allemagne, il y a un manque de confiance dans la jeune génération. Et c'est vrai aussi que la plupart des jeunes, diplômés ou pas, ont envie de faire partie d'un projet, de sentir que leur entreprise, ça leur apporte quelque chose au niveau social, qu'ils ont un lien, des attaches avec leurs collègues et leurs patrons, et qu'il y a une bonne ambiance. Ça, c'est important en France et en Allemagne. Et si je peux ajouter une chose, en fait, quand on compare encore les générations, on peut dire aussi que dans les deux pays, très souvent, quand il y a un jeune, un nouveau qui arrive, les jeunes ont envie d'apprendre de ceux qui sont déjà expérimentés. Et parfois, les collègues plus expérimentés n'ont pas très envie de transmettre leur savoir-faire. Et ça, c'est un peu dommage. Ou ils n'ont pas non plus envie de suivre des formations, surtout quand il s'agit de l'informatique. Ça, je l'ai constaté moi-même en France et je trouve ça un peu dommage.
Merci beaucoup pour votre témoignage. On va passer la parole peut-être en ponctuation de ce premier temps de la table ronde à Philippe Gustin. Je ne suis pas sûr quelle idée vous voulez réagir, mais il y a une idée moi qui me paraît essentielle et qui figure dans les éléments de sondage qu'a cité tout à l'heure Didier, c'est que dans la grande majorité, à plus de deux tiers, cette génération est dans l'idée du mouvement, du changement, du mouvement, soit dans l'entreprise, soit en dehors de l'entreprise. Mais c'est intégré complètement comme un des éléments de l'avenir, à court terme, 2-3 ans.
Merci. Même si nous sommes attablés, je ne veux pas faire du discours de café de commerce, mais quand même... À partir de ce sondage extrêmement intéressant, je crois qu'il faut regarder aussi la réalité. La génération qui arrive aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est par rapport à la génération précédente ? D'abord, c'est une génération qui est mieux formée en France comme en Allemagne. Je rappelle, aujourd'hui, la massification a plutôt fonctionné. On a 65% d'une génération qui arrive au bac. Alors vous allez me dire, comme tous les défaitistes, qu'est-ce que c'est que ce bac aujourd'hui par rapport à ce qu'il était il y a 25 ans ? Force est de constater, là aussi, qu'au-delà des sondages et des études qui peuvent être faites, le niveau de formation s'est élevé dans ce pays. En parallèle, c'est une génération qui, pour une bonne part, en France comme en Allemagne, a toujours connu le mot chômage dans son environnement. C'est une génération qui est née avec le chômage, qui... pour une bonne part des enfants, et en particulier ceux des milieux les plus défavorisés, à des parents qui n'ont même jamais travaillé. C'est la réalité, je pense, dans des quartiers pas très loin d'ici. Et donc la valeur travail, elle passe essentiellement par l'éducation qu'ils ont pu recevoir par ailleurs, et en particulier dans le système scolaire. Troisième caractéristique de cette génération... C'est une génération qui n'a pas confiance, c'est ce que vous avez mis en exergue en avant dans votre présentation. On peut un peu la comprendre, à la fois parce que je viens de dire, un pays qui ne donne plus d'emploi à ses jeunes ne peut pas créer la confiance, mais par ailleurs, la famille elle-même, et c'est d'ailleurs intéressant que c'est dans la famille qu'ils ont le plus confiance, la famille ne leur a pas renvoyé non plus cet ascenseur de la confiance, puisque souvent, et on le sait bien, ils appartiennent à des familles décomposées, recomposées, recomposées. Un petit exemple là, puisque nous sommes dans l'Académie de Créteil, 3 enfants sur 5 arrivant au collège appartiennent à des familles décomposées, recomposées. Au collège, hein, ils ont 10 ans. Élément positif dans mon catalogue à la Prévert, et je rejoins ce qui a été dit, c'est une génération par contre, et on le constate, qui s'engage. Et il n'est qu'à voir l'engagement dans les associations de cette génération, comparé à celui de la génération passée, pour voir qu'ils ont des idéaux, contrairement à ce qu'on peut croire. Ce n'est pas une génération uniquement virtuelle qui passe son temps sur les réseaux sociaux, c'est une génération aussi qui est capable de s'engager, et on le voit en particulier dans l'école tous les jours. Et puis dernier élément qui me semble extrêmement important, par rapport à la génération précédente, et j'ai souri quand vous avez fait le parallèle entre ce que les parents souhaitent pour leurs enfants et ce que les enfants souhaitent pour eux par rapport au statut de fonctionnaire. C'est une génération, et là, mon poste qui est le mien, j'avais quitté le milieu de l'éducation nationale pendant des années, et j'y suis revenu là un petit peu contraint et forcé. C'est une génération qui connaît mieux l'entreprise que la génération précédente. Et là, c'est le résultat d'un travail qui continue d'ailleurs, hein, qui doit en tout cas persévérer, surtout en France par rapport à l'Allemagne. Parce que là aussi, la dichotomie col blanc, col bleu en Allemagne n'était pas si forte qu'en France. Hein. En France, il fallait surtout pas aller travailler dans l'entreprise, il fallait être fonctionnaire, oui, l'assurance de l'emploi, mais aussi ne pas faire des métiers qui soient, en termes de bien-être, moins favorables. Donc cette meilleure connaissance de l'entreprise, elle passe par des éléments très concrets qu'on pourra peut-être développer plus tard, mais qui sont à mon avis fondamentaux pour faire qu'aujourd'hui, un enfant, en termes de, un élève, un étudiant, en termes d'orientation, puisse avoir toutes les cartes en main, a fortiori s'il n'a pas derrière lui une famille qui peut l'aider à trouver son chemin. Et parmi ces cartes, il y a naturellement la carte de l'entreprise.
Béatrice Demenet, Arte, bonjour. Je voulais préciser aussi que on dit d'un côté que cette nouvelle génération n'a plus confiance en l'entreprise, mais c'est aussi la génération des CDD, des stages. Je vois moi-même les CV que je reçois pour les stagiaires en permanence. Ils ont de plus en plus de diplômes, de plus en plus de stages vraiment impressionnants. Et ils sont surtout qu'on ne prend que des stagiaires allemands. Donc ce sont des stagiaires de plus en plus âgés qui vraiment ont eu le temps d'avoir un parcours impressionnant. Et on les prend en stage, on les paye le minimum possible. Il reste 6 mois et on les fait partir et ça prend un poste et c'est il y a ça aussi et tout le monde le fait quand même et je sais que ma génération, je suis pas très âgée, je l'ai fait aussi, j'ai fait une vingtaine de stages et qu'on le fait quand même parce que c'est important de les avoir, sinon on trouve pas de travail après. J'ai passé 4 ans en CDD. Il y a cet aspect-là aussi.
Qui procède aussi du désenchantement, hein, ou une partie en tout cas du désenchantement dont on a parlé. Pour répondre justement à votre réflexion, je vais passer la parole à Philippe Pierre, pour essayer de comprendre avec Philippe Pierre un petit peu quels sont les rapports de cette génération avec le monde du travail. Comment ce rapport a-t-il évolué? Le travail a-t-il une reconnaissance pour les jeunes? Est-ce que le travail représente une part importante de la vie de l'individu? On a vu avec Didier tout à l'heure qu'effectivement, il y avait un rapport au travail qui avait évolué par rapport aux générations précédentes. Philippe, docteur en sociologie de l'Institut d'études politiques de Paris, vous avez été DRH dans des grandes entreprises, L'Oréal, Elf Aquitaine. Vous êtes sociologue de l'entreprise et chercheur au sein du laboratoire LISE, qui est le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique qui est du CNRS. Vous l'avez été jusqu'en 2009, en tout cas.
Je suis le DRH du groupe pour la France. Donc, avec grand plaisir, je donnerai le micro à M. Philippe après. Je voulais répondre à plusieurs interventions. Je crois que j'ai la chance de travailler dans un groupe qui fondamentalement est différent peut-être de grandes entreprises cotées en bourse. Et en premier, répondre à votre intervention, madame. Si on prend Saint-Ouen, 2% des emplois sont des emplois dits précaires. Sur 850 personnes, vous multipliez, il y a 15 ou 16 personnes qui sont en intérim ou en CDD. C'est-à-dire que tous les emplois chez Bosch sont principalement des CDI. Et je pense que il n'y a pas un DRH qui souhaite gérer des effectifs précaires trop importants. Le deuxième point, j'ai tendance à dire que la génération actuelle ne change pas trop, pour moi, de la génération, j'allais dire, M. Maugis parlait de la génération après 68, je pense qu'elle a été difficile à gérer pour les entreprises. Quand j'étais jeune, il n'y a pas tellement longtemps, j'avais besoin de respecter mon patron. Ça veut dire que mon patron devait être exemplaire. J'avais besoin que mon patron me fasse confiance. J'avais besoin qu'il me donne de l'autonomie ou de la liberté. J'avais besoin qu'il me permette d'évoluer. Et je ne voulais pas qu'il me mette dans des cases. J'ai tendance à dire que le point essentiel pour moi, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication que vous avez évoquées. Dans lequel, lorsque le matin, il y a des fois, je suis encore un fumeur. Donc je fume dehors et je vois les gens arriver. Et là, il y a une vraie différence entre les âges, entre la personne qui a l'iPod et le gros casque sur l'oreille. Dans le bureau où je suis, dans mes équipes, on a aussi la chance à Saint-Ouen d'avoir 16 nationalités différentes. Et là, les cultures vont être mouvantes avec un âge à l'identique, où les jeunes travaillent avec les écouteurs, mais de temps en temps s'arrêtent et vont aller regarder des photos de vacances. Ce que je faisais pas, là, c'est vrai, étant jeune, parce que j'en avais pas les moyens, et puis c'était peut-être pas toléré. Je crois que le mot essentiel pour nous, Bosch, dans la gestion des hommes, c'est le respect. Et quand il y a du respect, on peut tout faire. Ensuite, bien évidemment, il y a quelques contraintes. Bien évidemment, le jeune est exigeant, mais le senior que je suis, et alors mon président, je vous en parle pas, est aussi exigeant. Et toujours en attente, toujours demandeur. Je crois qu'il faut donc donner cette notion de plaisir et cette notion d'envie. Cette notion de plaisir, cette notion d'envie, je crois qu'elle est intergénérationnelle. Donc j'ai la chance, moi, de pouvoir travailler dans un groupe où, globalement, on a cette définition. Un point essentiel, et je terminerai là-dessus, c'est que si on veut fidéliser des collaborateurs, le taux de démission sur Bosch en France est très faible. Et on ne voit pas une évolution de ce taux de démission chez les jeunes. Mais ce qui est très important chez Bosch, c'est que si on doit se séparer de collaborateurs, on ne le fait pas n'importe comment. Que ce soit, y compris dans un licenciement faute grave, encore plus dans des restructurations, mais ça veut dire que si ce n'est pas le salarié qui décide de quitter, si c'est nous qui devons prendre la décision, la fin du contrat de travail, qui n'est pas l'initiative du salarié, doit être exemplaire. Et ça, à mon avis, c'est certainement le bouche à oreille qui fait que si tu dois quitter l'entreprise et pas de ton fait, tu verras, ça se fera correctement. Moi, j'ai une vraie question sur les jeunes générations, parce que c'est une question qui est fondamentale pour moi, c'est leur implication dans le monde syndical, dans lequel l'ensemble des confédérations et des fédérations, aujourd'hui, là-dessus, ont une vraie question. Ils n'arrivent pas à faire adhérer les jeunes, et ils arrivent encore moins à leur faire prendre des mandats dans le monde de l'entreprise. Donc voilà ce sur quoi je voulais finir. Mais je passe la parole à mon éminent voisin de table.
Merci. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, sur la présence dans les syndicats. Il y a une chose qui me frappe, moi, c'est peut-être dans cette jeune génération, mais à ce moment-là, il faut parler des cadres diplômés, et donc ne pas confondre classe d'âge et génération. On a insisté ce matin sur ce point. C'est leur volonté, je crois, d'exister sur plusieurs scènes professionnelles. La première fois en tant que DRH qu'un jeune m'a demandé s'il pouvait faire un congé humanitaire dans quelques mois alors qu'il était recruté dans l'entreprise qui était la mienne, j'ai été extrêmement surpris. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être chez lui une volonté d'exister, en fait, tout simplement, et d'avoir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, autrement que chez un seul et même employeur. Alors je voudrais rebondir en quelques secondes sur ce que j'identifie moi comme trois modèles d'organisation qui correspondraient peut-être à trois représentations de ces jeunes au travail, hein, pour aussi faire écho à ce que Bruno Fuchs nous invite à faire. Premier modèle, et je pense qu'il existe encore, c'est celui qu'on pourrait appeler en fait le modèle de l'emploi à vie. Vous rentrez dans une entreprise, elle est fortement célèbre, elle vous confère de la valeur, et vous échangez une sécurité de destin. Vous faites confiance au DRH que j'ai en face de moi pour aménager, je peux, pour aménager en fait une carrière en échange d'une sécurité. Alors ce modèle, il est en train de s'étioler, mais je pense, et là je rebondis aussi sur ce que Dominique a indiqué en début de séance, je pense qu'il reste quand même, parce que j'interviens dans des organisations publiques, je pense qu'il reste quand même vivant. Et que ce modèle de l'emploi à vie, même s'il est en train de s'étioler, il reste quand même, pour beaucoup, quelque chose de recherché. Le deuxième modèle, le premier modèle, c'est la pyramide, c'est le commandement, c'est la place du chef, et c'est l'idée de l'ascenseur social. Et on sait bien que l'ascenseur social vit une double panne. Ceux du bas n'arrivent pas à accéder au milieu, et les enfants de ceux du haut sont pas sûrs de conserver leur position. Donc on est dans cette situation-là. Deuxième modèle, c'est celui que j'appellerais de l'employabilité, c'est-à-dire que on célébrerait un modèle qui serait en fait de vendre sa valeur sur le marché du travail, de voter avec ses pieds, comme l'indiquait Bruno Fuchs au début de notre échange. Quand ça me plaît plus, je pars, mais je dis pas pourquoi je suis parti. Alors là, ça inviterait un DRH à notamment structurer les entretiens de sortie. Véritablement savoir ce qui a amené un jeune à quitter l'entreprise. Et je pense que ça, on le fait pas beaucoup, à chaud et à froid. Puis le troisième modèle, ça serait celui en fait d'une entreprise mondialisée, qui accepte qu'on prenne du plaisir au travail, qu'on soit dans l'immédiateté, la connectivité, et qui offre des réseaux, et donc à ces jeunes qui sont nés avec une télécommande dans la main. Alors à grands traits, on pourrait dire qu'il y a un modèle monoculturel où tu es différent de moi, je cherche à te transformer en ce que je suis. Premier modèle. Deuxième modèle, après tout, laissons-les vivre tels qu'ils sont, au risque du côte à côte, et ça c'est ce que j'appellerais un modèle multiculturel. Et puis ce que nous avons devant nous, ça serait une réalité interculturelle, c'est-à-dire reconnaître des gens différents de nous, véritablement leurs différences. Alors je voudrais simplement, en quelques secondes, indiquer quelque chose qui me frappe. C'est le décalage entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Beaucoup de jeunes cadres, et là j'insisterai juste sur les jeunes cadres diplômés, célèbrent, comme les brochures papier glacé des grandes entreprises, la mobilité, notamment la mobilité géographique. Alors ils le disent. Et puis en réalité, quand on regarde ce qui est vraiment fait, il y a un phénomène, et là je vais utiliser un gros mot, c'est l'endogamie. Chez ces jeunes cadres, on se marie de plus en plus entre soi. Et ça pose à notre société une vraie question sur la mixité sociale. Dans quelle mesure on est avec des personnes que l'on choisit qui sont d'une autre origine sociale. Et donc vous avez sur un homme comme vous, pèse sur vous la contrainte de la double carrière. Puisqu'on se marie entre soi, on est en situation de vouloir faire une double carrière. En réalité, les mobilités géographiques internationales ne sont pas beaucoup plus élevées qu'il y a quelques générations. Donc ça, c'est un point important dans le décalage entre ce que l'on affiche et ce que l'on dit. Et puis, dernier point, c'est le rapport au temps. Moi, je pense qu'ils sont polychrones, c'est-à-dire qu'en fait, plus que nous, ils veulent faire plusieurs choses et être en contact avec plusieurs espaces sociaux en un seul temps physique. Là, nous sommes papier-crayon tous. Mais si nous étions avec des jeunes générations, pas tous d'ailleurs, BlackBerry, ordinateur, et on accepterait d'être connecté à d'autres mondes alors que nous vivons une expérience commune. Et ça, le côté polychronique, on a un pouvoir dessus. J'enseigne dans une école de commerce où quand je rentre dans l'amphi, les jeunes qui sont là commencent par faire quoi ? Ils tapent mon nom et ils regardent le nom d'occurrence. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles à la réputation sociale que quelqu'un se construit ailleurs. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur exister sur différentes scènes. Ils sont sensibles à ça. Puis après, ils lèvent un coin de l'œil, et puis ils écoutent ou pas le professeur. Et à ce moment-là, on co-construit ensemble. Puis j'enseigne aussi, j'ai la chance d'enseigner dans une école d'ingénieurs, ils ont exactement le même âge. Et l'institution leur a imposé le papier-crayon. C'est un autre rapport. Ils ont le même âge. Ce n'est pas les mêmes comportements. Donc ce rapport au temps, monochrone-polychrone, me semble très intéressant aussi et a des conséquences très concrètes dans l'espace des entreprises et pour un DRH comme vous et pour ceux qui réfléchissent à ces comportements au travail.
J'allais passer la parole à Florence pour compléter peut-être votre ouvrage et raconte 24 parcours d'intégration de jeunes qui se trouvent sur le marché du travail et qui s'intègrent donc dans les entreprises. Et c'est un ouvrage que vous avez co-dirigé.
Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ce matin. Donc, je travaille aux éditions Autrement et on sort le 13 octobre une grande enquête sur l'emploi des jeunes qu'on a lancée il y a un an. Et on voulait avoir une approche culturelle, en fait, enfin sur le savoir-être, sur les comportements, pas quelque chose de statistique, pas quelque chose de grand. Enfin, on n'est pas sur les grandes masses, sur les secteurs qui recrutent, etc. On est allé, enfin, pas. Pas en posture de départ. On est allé voir 24 jeunes en France. Ils ont entre 18 et 30 ans. Ils sont grands diplômés. Enfin, ça va de polytechnique à sortie du système scolaire sans diplôme. Et on leur a garanti l'anonymat et l'anonymat de leur structure également. Et on leur a demandé de nous raconter leurs 100 premiers jours dans l'emploi à la manière d'un carnet de voyage. En nous disant, dites-nous ce qui vous surprend, dites-nous ce qui va pas de soi, pour que nous, déjà dans l'entreprise, nous recruteurs, nous DRH, managers, on se souvienne de ce que c'est de rentrer sans nécessairement avoir les codes, et pour aussi que cette génération-là, elle soit solidaire de celle qui est pas encore sur le marché du travail, et qu'elle donne les clés, les bonnes postures, les réflexes, les pistes. Utile pour une intégration réussie. Alors forcément, sur le panel de 25, on a une forte dispersion. On a des périodes d'essai, parce que souvent, ça correspond à cette période-là, qui se passent très très bien. D'autres qui ne sont pas reconduits. Donc c'est aussi très instructif de l'extérieur. Donc on a un effet de réel vis-à-vis des gens qui sont déjà dans l'entreprise. On a un effet de solidarité avec les jeunes qui cherchent du travail. On retrouve ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une exigence d'exemplarité, de transparence, un rapport très affectif aussi au travail. Il y a notamment une jeune qui a 25 ans qui vient de rentrer dans une boîte internet et qui trouve que sa boss est pas suffisamment conviviale avec elle. Et alors, elle décrypte la situation, elle dit, bon, hypothèse 1, elle ne m'aime pas, et hypothèse 2, elle construit quelque chose d'un peu plus rationnel, et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils investissent énormément d'affect dans leur relation avec les collègues et avec leurs supérieurs hiérarchiques aussi. On parlait de la génération numérique tout à l'heure, c'est vrai, elle est très connectée, elle est sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une partie de la jeunesse qui ne l'est pas. Dans les jeunes qu'on est allé voir, certains n'ont pas d'adresse internet, certains n'ont pas de téléphone portable. Je pense en particulier aux jeunes des missions locales qu'on a voulu aller voir, et notre point d'entrée, c'était leur référent mission locale. Enfin, donc toute la jeunesse n'est pas 2.0. On a en fait donc recueilli ces 24 témoignages-là. On leur a laissé aussi une expression graphique. Certains ont fait de la BD, ont fait des collages pour représenter leur relation au travail. Et on s'est posé la question de l'organisation en fait de ces 24 textes. On s'était dit, est-ce que l'âge va être pertinent? Est-ce que les diplômes vont être pertinents? Et pas vraiment. C'est-à-dire qu'on peut être à 18 ans, bac pro, s'intégrer excessivement bien dans l'entreprise, et avoir 25 ans, un master 2, et galérer, pas du tout comprendre, pas du tout avoir les codes. Et ce qu'on a choisi comme type d'organisation, c'est le type d'employeur, en fait. Donc on a un groupe PME, un groupe filiale, un groupe grand groupe, un groupe secteur public, un groupe association. On retrouve ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la grande entreprise qui clive énormément, en fait. C'est-à-dire que la grande entreprise, ça passe ou ça casse. Soit on a un profil... soit on s'y adapte complètement et on y réussit très bien, soit on passe à côté des codes et ça se passe assez mal. On a un vrai coup de cœur et on n'a pas vraiment truqué les choses sur la PME. Où il y a une proximité en fait du DG, une proximité de la décision qui convient, enfin qui nous semble convenir peut-être davantage à la génération Y. Et par contre, ce qu'on n'attendait pas vraiment, on sait qu'il y a un engagement associatif, hein, que les jeunes veulent exister sur plusieurs scènes professionnelles. Et l'association est aussi là où il y a le plus grand désenchantement, en fait. Pour ceux qui choisissent d'y travailler à 100%, donc on a des grandes ONG internationales, on a aussi des assos de quartier. Et en fait, il y a un décalage entre les utopies, hein, enfin ou l'idéal qui pousse vers l'asso, et le fonctionnement. Parce que l'asso a un fonctionnement proche d'une entreprise, elle doit trouver des financements, elle doit parfois proposer des services. Les gens qui y travaillent sont pas nécessairement meilleurs que ceux qui sont dans la grande entreprise, ils sont pas plus charitables ou plus exemplaires. Et c'est assez intéressant de sentir ça. Ce qui est chouette aussi dans ces témoignages-là, c'est qu'il y a des vraies leçons de vie. Enfin, on est parfois bluffé par les jeunes. Alors, j'ai deux exemples. L'un, dans une grande banque, une jeune femme, enfin qui a 22 ans, qui est en école de commerce en apprentissage, et elle nous explique, elle a pas froid aux yeux, mais pas de manière trop écrasante en fait. Mais elle arrive donc dans cette grande banque là, elle ouvre l'annuaire interne, elle identifie les gens qu'elle veut rencontrer, donc ça peut être le directeur marketing ou des gens peut-être un petit peu plus proches d'elle. Elle leur envoie un mail en leur disant qu'elle se pose des questions sur son orientation et qu'elle veut les rencontrer, et elle nous dit qu'elle n'a jamais eu de refus. Donc il y a une prime à l'audace aussi qui était assez intéressante. Et un autre exemple qui me vient en tête, PME cette fois-ci, un VIE qui est parti tout seul pour étudier une possibilité d'export. Il est à Londres, mais c'est pas toujours facile en fait, parce ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont en effet très famille, ils sont en effet très cocon, et la France lui paraît loin, même s'il y a que la Manche entre lui et nous. Et il fait régulièrement des listes sur ce qu'il veut trouver dans son job. Il l'a fait au lycée, ce que je trouve assez mûr pour le coup, et il le fait aussi assez régulièrement, et ce qui lui permet de vérifier qu'il est bien en adéquation avec ses objectifs, ses rêves, voilà.
Philippe, Pierre, peut-être il y a revenir sur un point, peut-être en enrichissant du témoignage à l'instant qu'on vient d'entendre, mais vous décrivez donc deux fonctionnements différents, celui d'un fonctionnement plus traditionnel, modèle 1, hein, plus pyramidal, classique, moins complexe, et puis un mode donc de vie sur plusieurs scènes en même temps. Comment faire quand on est chef d'entreprise ou DRH? Il faut se caler sur les modes des jeunes, il faut arriver... Comment on trouve ce terrain d'entente, ce compromis
Je pense qu'il faut être en cohérence avec ce que l'on propose. Dans le premier modèle, si vous proposez en fait un emploi à vie, une sécurité de destin, et que vous avez la possibilité d'offrir à un jeune deux postes successifs, eh bien là, je pense que par exemple, dans le domaine du recrutement, il ne faut pas aller vers le simulacre ou vers des méthodes qui peuvent donner l'illusion en fait qu'on est forcément systématiquement dans le vent. Je pense par exemple à créer des business games pour attirer cette population. Moi, je suis assez sceptique. Être présent sur Second Life pour créer des forums de recrutement virtuels. Et puis, être en cohérence et par exemple continuer de recruter en face à face. Continuer d'être dans une logique de cooptation, c'est-à-dire en fait, si vous recrutez en face à face, vous commencez déjà à créer du réseau pour ce jeune. Et donc une possibilité pour lui de cheminer dans l'organisation avec des gens qu'il aura déjà rencontrés. Donc moi, cette cohérence entre outils RH et puis image employeur, elle me semble très importante. Et puis, un point important aussi chez beaucoup de ces jeunes, c'est la volonté, vous l'avez bien illustré, madame, c'est la volonté de co-construire leur carrière. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'hésitent pas à demander à d'anciens professeurs, à demander à des personnes qui étaient de leur promo et qui sont dans d'autres entreprises, comment on y vit vraiment. Ils n'hésitent pas non plus à noter, et ça peut être un danger pour les entreprises, à noter au cours du stage ce qu'ils estiment en termes de climat social. Un danger, et ça répond peut-être pour part à votre interrogation, un danger pourquoi ? Parce que le danger pour le DRH, c'est de courir après les faits, en fait, finalement, d'annonces, et de passer plus de temps à se soucier d'enquête de climat social ou de reporting autour de ce qu'attendent les jeunes qu'à véritablement agir. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a attention aux effets de mode, à la fois en termes de recrutement, à la fois en termes de gestion de carrière. Restons en cohérence avec ce que l'on peut offrir. Mais la co-construction professionnelle me semble quelque chose à prendre en compte pour les DRH, être en réseau et en réseau de réseau. Être en réseau et en réseau de réseau. Ça, c'est un modèle très certainement pour nous, et nous le faisons ce matin, puisque nous échangeons nos pratiques, sommes en réseau de réseau. Ça semble un modèle tout à fait intéressant à suivre, et on a partagé avant notre petit déjeuner avec Dominique justement sur ce point, attention à l'écart entre l'effet d'annonce de ce que l'on propose avant et ce que l'on vit au moment de l'intégration notamment et de la carrière.
Florence,
oui, j'avais juste une expérience personnelle et dans la pleine lignée de cohérence entre le discours et les pratiques. Je suis diplômée d'une grande école et on est courtisée de temps en temps par des employeurs. Là, pour ne pas le citer, c'était un cabinet de conseil qui s'appelle Bain qui faisait une opération séduction vers les femmes. En nous expliquant qu'il faisait de la diversité, qu'il y avait des conditions absolument rêvées quand on était une jeune femme de 30 ans et qu'on voulait un deuxième ou un troisième poste pour venir chez eux. Et je suis allée voir, mon premier métier était les RH, donc je suis aussi allée voir le DRH après. Et je lui ai dit, écoutez, je viens pas, si je fais le choix de venir travailler chez Bain, c'est pas pour avoir une conciergerie ou pour savoir que je pourrais prendre mon congé à maternité. C'est parce que j'ai envie de bosser 15 heures par jour et d'avoir une stimulation intellectuelle à 70 heures par semaine. Et je trouve qu'il y a quelque chose de malhonnête dans le fait de... Et ça rejoint l'effet de mode. Il ne faut pas vendre ce qu'on n'est pas, en fait. Une boîte industrielle doit vendre un projet industriel. Une boîte de consulting doit vendre des 70 heures par semaine auprès des clients et 3 semaines de vacances à l'année, point barre, en fait. Hein.
Et pour aller dans votre sens, observons l'âge, en fait, de ceux qui sont supposés recruter dans les grands groupes, sur les forums, où vous allez chercher, en fait, des talents et des jeunes viviers. Regardez le rajeunissement spectaculaire de ceux qui parlent des entreprises et ceux qui parlent du tréfonds des métiers. Alors là, je vais faire du délit de sale gueule, c'est-à-dire que je vais considérer en fait un lien entre l'âge et l'inexpérience par rapport au métier. Mais je pense que c'est assez juste, et ça renforce les effets de mode, c'est-à-dire que quand on a 24, 25 ans, 26 ans, qu'on est dans des équipes de recrutement et qu'on va « fishing in different ponds », disent les Américains, c'est-à-dire essayer de pêcher dans des viviers différents, ça renforce ce dont vous parlez. Ça amène un deuxième effet. Ça amène en fait qu'on communique à distance avec des gens qu'on ne voit pas, et on considère que le recrutement doit s'opérer en fait systématiquement sur le net à travers des moteurs de recherche qui vous permettent comme ça de traiter de manière massifiée les candidatures que vous recevez. Là, je parle des grands groupes. Donc c'est un point, à mon avis, très important. Cette nécessaire cohérence entre les métiers, la richesse que l'on crée, et puis l'étape de l'intégration, on en parlera très certainement, et l'étape du sourcing.
Justement, on est là dans le cœur de cette troisième grande question qu'on voulait aborder ce matin, la question de la séduction de l'entreprise, en tout cas de la rapport de l'entreprise au futur employé. Je vais passer la parole à Didier sur la façon dont l'entreprise, peut-être en parlant de marque employeur, j'en sais rien, à tout hasard, crée cette relation avec le futur employé. Comment on se rend séduisant et quelle relation on crée? On est dans le cœur du débat.
Je vais rebondir juste une seconde sur les propos qui ont été tenus, parce qu'effectivement, il y a eu les mots cohérence. C'est un postulat pour cette jeune génération. C'est-à-dire, encore une fois, il faut bien avoir à l'esprit qu'avant d'arriver dans une entreprise, potentiellement, elle sait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur cette entreprise. Si on vante la qualité du management et qu'au final, elle peut lire des tonnes de billets sur le web qui contredisent cela, je vais vous donner un exemple très concret que j'ai vécu il y a 3-4 mois, mais je ne citerai pas le nom de l'entreprise, très grand groupe du CAC 40, et moi je voyais une empreinte numérique sur le web qui était plutôt très négative. Et donc j'interpelle le président de ce groupe, et qui me procure un rendez-vous avec sa directrice de la communication et de la responsabilité corporate. C'est-à-dire que maintenant, on crée des jobs de responsables de la responsabilité. Demain, il y a le responsable du bonheur. Enfin, voilà, c'est programmé, tout ça. Bon. Donc, ça va très loin, parce que quand un jeune voit ce type d'intitulé, c'est tout de suite fuyons. Parce que, globalement, c'est le baratin qui est derrière. Et cet entretien a reposé sur une démonstration de toutes les médailles en chocolat, Great Place to Work, employeur de référence, etc. Et en parallèle, une de mes stagiaires a mis 3 minutes pour m'imprimer ça de billets sur le web, où ce groupe était attaqué sur l'angle du racisme, de la discrimination, etc. Bref. Donc, évidemment, la vraie vie, elle est ni d'un côté ni de l'autre, mais sûrement dans un enjeu de réputation très important. Quand nous bâtissons des stratégies de réputation employeur, parce que c'est bien de ça dont il faut parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la communication RH quand on parle d'attractivité. Parce que le plus important, c'est pas ce que l'entreprise a à dire, c'est ce qu'on dit d'elle. Et donc, à un moment donné, ce qui impose, c'est d'entrer dans une logique de preuve. Et là, plutôt que de faire des grands discours qui peuvent être décriés, il faut remettre en avant, et on va réhabiliter du bon sens très pragmatique, il faut remettre en avant la culture de l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette culture qui fait que, quel que soit mon job, mon âge, etc., je suis fier de porter le maillot de l'entreprise. Et là, il y a des fondamentaux à revisiter. Un, essentiel, que 99% des DRH ne revisitent pas, parce qu'ils ne sont pas formés à ça, c'est la marque de l'entreprise. Quand tu parlais de la marque employeur, il faut avoir une chose à l'esprit, c'est que la marque employeur, ce n'est que la marque traitée sous l'angle employeur. La marque, elle donne l'input, elle donne des engagements, elle tient des promesses avec les clients. Et toutes les stratégies, soit marketing, RH, qui en découlent, sont là pour tenir ces engagements et ces promesses. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un enjeu majeur de transmission, et donc du modèle de management, et donc du leadership. Je vous donne un chiffre qui fait froid dans le dos. C'est un chiffre national et qui couvre évidemment les grandes entreprises. 70% des managers trentenaires en France déclarent ne pas adhérer aux valeurs de l'entreprise. 70%. C'est-à-dire que 70% des équipes managées en France ont des managers qui ne croient pas aux valeurs de l'entreprise. Comment voulez-vous qu'ensuite il y ait un pacte de confiance fort? Alors, ces managers trentenaires, c'est la première génération Kleenex. Hein. Je veux dire, donc, si vous voulez, il y a une sorte de cynisme qui s'est un peu construit au fil de l'eau et de distance par rapport à ces grands thèmes auxquels on ne croit pas quand on a galéré pour entrer sur le monde du travail. Mais quand on réhabilite du bon sens et quand on réhabilite du contact physique, parce que, évidemment, les réseaux sociaux, le virtuel, tout ça fait partie de la vie de ces jeunes générations. Il faut savoir l'utiliser, bien évidemment. Mais il faut savoir l'utiliser sous l'angle de la e-gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est quasiment... c'est à la portée de n'importe quel président, de n'importe quel DRH, de pouvoir communiquer en totale transparence avec ses publics. Nous, il y a 4 ans de cela, je vous raconte une anecdote parce que c'est assez puissant. Il y a 4 ans de cela, nous avons pour une entreprise de retail, en l'occurrence Sephora, qui est un groupe LVMH qui se multiplie partout, etc., lancé le premier blog de collaborateurs. Le président a eu l'intelligence de se dire, bon, nous on estime qu'on est la plus belle boîte de notre marché, mais si on le met sur une plaquette dorée sur tranche, bon, il va y avoir un peu de scepticisme, les gens ne vont pas forcément le croire. Puisque nos équipes, on y croit dur comme fer, eh bien, si elles le pensent, qu'elles s'expriment. 4 ans plus tard, ce blog de collaborateurs, qui n'est modéré que sur des aspects de discrimination ou d'atteinte à la personne, c'est-à-dire globalement, il n'y a quasiment aucun dérapage, eh bien, génère 25 000 internautes qui, tous les mois, se connectent avec ce blog de collaborateurs. C'est quand même assez hallucinant. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 4 ans, l'entreprise dépensait des sommes considérables en communication RH, communication de recrutement. Aujourd'hui, il recrute encore plus qu'il y a 4 ans. Il ne passe plus aucune annonce d'offre d'emploi. Parce que toutes les candidatures spontanées viennent de cette plateforme par la preuve. Et ce qui est intéressant, que ce soit un jeune comme un cadre confirmé. Avant de postuler, je sais ce qui m'attend. Donc, un des critères majeurs d'attractivité, c'est la preuve de l'ambiance vécue. Donc, ça passe, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur le leadership du management, l'exemplarité de haut en bas. Le drame dans la plupart des grands groupes, c'est que la tête est coupée du corps. Et ça, c'est un vrai drame. C'est-à-dire, c'est que globalement, le top management n'est pas assez proche du terrain dans les grands groupes, et ce qui fait qu'effectivement, il y a une grande distance, et puis il y a des comportements un peu déviants du management intermédiaire. Il y a une vraie reconquête de la culture. Moi, je parle de plus en plus de marque maillot. Je veux dire, c'est dans le sport collectif, on dit souvent sur le terrain, c'est pas celui qui est dans le maillot qui est la vedette sur le terrain, mais c'est le maillot lui-même. Et bien, dans une entreprise, c'est pareil. globalement, il faut réinventer la fierté d'être telle entreprise. Alors, le DRH de Bosch, l'évoquer. Bon, c'est vrai que Bosch fait partie de ces entreprises un peu à part. C'est pas pour vous flatter, mais parce qu'il y a une culture très très forte sur laquelle l'entreprise a été intransigeante. Elle n'a pas négocié sa culture au gré des modes, etc. Ça, c'est effectivement une vertu pour l'avenir. Les boîtes qui dansent avec les modes, eh ben globalement, elles passent comme les modes, hein, très clairement. Et elles peuvent être contredites. Donc la culture et le leadership, c'est vraiment quelque chose de très important.
Alors moi, je nuancerai, parce qu'évidemment, le sport, et Dieu soit loué, ne se limite pas à la cacophonie du foot français, heureusement. On peut parler des basketteurs, on peut parler des handball, on peut parler de l'athlétisme, on peut parler du rugby, etc., pour lesquels le coq veut encore dire quelque chose et le maillot national veut dire quelque chose. Moi, je crois que si on veut éviter, on va dire, les parallèles, parce qu'effectivement, ce qui s'est passé dans le foot, c'est le déni du maillot en tant que tel, on est bien d'accord. Je crois qu'il y a un vrai enjeu en termes d'attractivité. C'est bien pour ça qu'il faut surtout se détacher de toutes les modes en termes de com. Je crois que c'est vraiment très important. L'attractivité employeur, c'est tout sauf de la com. C'est prouvé. Je vais vous donner un autre exemple qui va complètement dans le sens du maillot, justement. En un an, dans un groupe, dans le retail, on a divisé par deux le turnover. Savez-vous ce qu'on a fait ? On n'a pas fait de com. On a réinventé le process du contrat de travail. Le contrat de travail, ce document que vous signez, c'est devenu un outil purement administratif dans la plupart des boîtes. La preuve, c'est que le contrat, on l'envoie par la poste, l'individu le retourne signer, et le manager qui va accueillir le jour J ce collaborateur ne connaît rien du contrat de son collaborateur. Bon. Eh bien, dans ce groupe, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réimpliqué le manager opérationnel, c'est-à-dire son patron direct. C'est lui qui accueille le nouveau, lui lit son contrat, lui fait signer, et en parallèle, co-signe le contrat du vivre ensemble dans cette boîte. Globalement, ils passent une heure ensemble. Mais qu'est-ce qu'on réinvente ? Ça coûte 0 euro en termes de budget. Hein. Qu'est-ce qu'on réinvente ? Le top là, je te fais confiance. Premier levier qu'on a actionné pour cette boîte. Deuxième levier, dans cette entreprise, tous les collaborateurs dans leurs entrepôts ont un tablier d'une couleur. On a changé, pour les nouveaux, pendant les 6 premiers mois d'intégration, la couleur de ce tablier. Ce qui fait que les clients, les collaborateurs, savaient tous que c'était un nouveau. Mais au bout de 6 mois, il y a une cérémonie, il faut réinventer des rites dans l'entreprise. Je veux dire, ça, c'est un point extrêmement important en termes de réputation. On a créé la remise du vrai maillot. Et donc, ça donnait lieu à quoi ? Simplement un pot. Il n'y avait pas les huiles de l'entreprise, il n'y avait pas tout ça. Un pot avec l'équipe et chacun d'assister à l'intronisation, au sens rituel, de ce nouveau dans l'équipe. Eh bien, en un an, le turnover a été divisé par 2. Vous imaginez ce que l'entreprise a gagné ? C'est hallucinant. Mais pourquoi ? Parce que les personnes concernées revendiquer leur intégration dans la tribu. Et une entreprise, aujourd'hui, alors surtout avec les jeunes générations, doit se revendiquer comme une communauté humaine. Et ça, c'est le point important. Mais elle ne peut se revendiquer comme une communauté humaine que si la tête, et là, le président, incarne le projet, s'il y a une générosité dans l'ambition, et si le management est habité par la logique de transmission. C'est le seul moyen pour que les salariés deviennent véritablement les militants du projet de l'entreprise. Et c'est le seul moyen pour que la boîte ait une bonne réputation sur le marché, donc soit attractive.
Ok, merci. On continue la discussion. Qu'est-ce qui veut prendre la parole ? Peut-être deux points. Peut-être la repasser.
Peut-être réagir sur tout ce qui a été dit, parce que... qu'est-ce que ça veut dire pour un dirigeant ? Bon, c'est non seulement une exigence d'exemplarité, comme on l'a dit, même plus de la part du jeune, c'est une certaine exigence d'admiration pour la personne avec laquelle il travaille, au sommet de l'entreprise, mais dans tous les échelons. Ben, ça met la barre un peu haute quand même, parce que nous ne sommes pas tous parfaits, loin de là. Nous essayons d'être exemplaires, mais ce n'est pas toujours facile. Et il y a un certain nombre de contradictions, quelquefois, dans nos décisions de tous les jours. Donc, cette exigence du jeune, moi, je considère qu'elle nous fait progresser. Et avec cette extraordinaire transparence, bon, ce que je dis toujours quand je recrute quelqu'un, bon, une entreprise, c'est comme un magasin, il y a une façade. En général, elle est relativement belle. En tout cas, on essaye qu'elle soit attractive. Et puis derrière, il y a l'arrière-boutique. Et c'est quelquefois pas aussi reluisant ni aussi propre que ce qu'il y a dans la rue. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, l'arrière-boutique, elle est instantanément accessible, alors qu'autrefois, on la découvrait après avoir passé 15 jours, 3 semaines ou 3 mois dans l'entreprise. Et comme on était dans une relation de fidélité, Je voulais faire le parallèle avec les familles recomposées, puisqu'on était dans une relation de fidélité, on ne divorçait pas, on ne quittait pas l'entreprise. Aujourd'hui, je reste dans l'entreprise parce que j'y trouve mon plaisir, mon bonheur et mes évolutions, mais j'ai moins peur de partir, de même que les parents ont divorcé. Le jeune divorce de son entreprise beaucoup plus facilement. Je pense que c'est important aussi, même si je suis persuadé que le rêve de la fidélité et du mariage qui tient est peut-être encore plus fort qu'il ne l'était à une époque où on se posait même pas la question. Donc j'en viens sur les discours qu'on a vis-à-vis de ces jeunes. C'est plus d'essayer de façon aussi franche et claire que possible de dire qu'on essaye de leur organiser leur carrière, que on va essayer de leur donner de la visibilité. C'est pas toujours facile, parce que les grandes organisations, pour bouger quelqu'un, il faut qu'il y ait un autre qui bouge, et puis c'est extraordinairement complexe. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'à partir du moment où on a un discours à peu près franc, en disant « voilà ce que je cherche à faire, je peux pas te le garantir, c'est peut-être dans 3 mois, c'est peut-être dans 1 an, mais on s'occupe de toi, et puis on explique comment on le fait », il y a une assez grande fidélité. Mais, encore une fois, il faut aussi savoir dire, je reviens à ce discours d'exemplarité, qu'on cherche à faire de son mieux, mais qu'on n'est pas parfait. Et c'est toute cette nuance qui est toujours pas toujours facile. Et puis toujours pour les familles recomposées, parce que je pense que c'est aussi important, parce que c'est aussi une des caractéristiques, vous en avez parlé un peu, mais je pense qu'elle est très très forte. Et moi, je la mets en parallèle avec la complexité dans nos grands groupes de nos organisations, qui sont quasiment toujours matricielles. Et moi, j'aime à dire qu'un enfant issu d'un couple recomposé est beaucoup plus apte, et c'est pas uniquement une plaisanterie, hein, est beaucoup plus apte qu'un autre à se mouvoir dans une structure matricielle parce qu'il a eu l'habitude de travailler avec deux sources d'autorité pas toujours totalement cohérentes, hein, et qu'il a été préparé très jeune à se déterminer, à s'autodéterminer dans une structure qui est pas toujours aussi claire que la bonne vieille pyramide où il y a une source d'origine unique. Voilà.
Merci. Peut-être Florence. Allez-y, ça ne dépend pas de vous. Normalement, ça ne dépend pas de vous, mais on va peut-être vous passer le micro.
Oui, voilà, c'est mieux. Oui, je voulais revenir sur l'implication pour le dirigeant. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de leadership, mais ce n'est pas un leadership de super-héros, en fait. On n'attend pas quelqu'un qui soit infaillible. On attend une relation qui soit plutôt celle... Et je reviens sur l'admiration, je crois que c'est plutôt de la confiance, en fait, qu'on veut. La confiance et de la sincérité, qui sont d'habitude des relations plutôt de l'ordre de l'intime, enfin, ou du couple, ou de la famille. Et là, on a bien vu qu'il y avait des parallèles entre privé et professionnel. Et je reviens sur l'université du MEDEF qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Il y avait une table ronde sur justement la culture des grandes entreprises. Et il y a deux dirigeants qui étaient Gallois et Richard, donc pour EADS et Orange, qui ont fait qui étaient dans une posture d'humilité, en fait. Ils ont tous, alors Orange de manière vraiment notoire, une culture interne à reconstruire, et il était en sincérité vraiment avec ça, et ça passe très très bien. Et de la même manière, Gallois qui avait sous-estimé, je pense, l'état de santé de ses collaborateurs, a fait une enquête interne qui était assez mauvaise. Et donc, ils ont réajusté avec tout un tas d'actions. Et ces postures-là qui sont... on y travaille, c'est pas parfait, mais on y travaille, enfin, sont des exigences, je trouve, qui passent très bien. Enfin, et des attentes, en fait, des jeunes.
Alors, deux points peut-être avec Philippe. Le premier, peut-être voir... on fait beaucoup d'efforts pour recruter, pour essayer de se rendre attractif. Est-ce que ça vaut le... comment faire cet effort, sachant que 2 ans ou 3 ans après, le collaborateur peut partir. Donc, comment voir cette relation avec un collaborateur? Et ensuite, on n'a pas abordé la question essentielle dans l'entreprise, qui est celle de la diversité maintenant, et de la gestion de la diversité.
Moi, je vais rebondir sur la diversité et sur ce qu'on a dit sur le maillot. Ça m'a marqué. Le maillot, pourquoi? Parce que ça me semble être dans un imaginaire du centre. L'entreprise serait suffisamment forte pour afficher des valeurs, et les salariés seraient fiers d'appartenir à ce maillot. Paris, la France, le centre. Le siège, les filiales, le centre. le super-héros manager au centre de tous. On pourrait être dans cet imaginaire un peu centralisé, que moi j'appelle monoculturel, qui n'est pas du tout la diversité. Quand un jeune agite deux maillots et que deux équipes ont gagné dans une Coupe du Monde, prenons l'exemple de la France et de l'Algérie, il est de quel côté ? Il est dans l'exclusivité ? Non, il fait des ponts, il fait des liens, il fait des correspondances entre deux univers de sens. Et je crois que les chefs d'entreprise, notamment, on n'est pas forcément habitué à ce qu'en face de nous, on ait des personnes qui aient cet imaginaire recomposé, à fidélité multiple. Et donc la diversité, premier point pour moi, c'est ça, c'est faire des ponts, des correspondances entre des univers de sens qui sont antagonistes parfois. Alors moi j'ai un problème avec le mot diversité, c'est-à-dire que je pense que la diversité, ce n'est pas l'égalité. Une entreprise peut se réclamer de X nationalités, et donc se dire diverse, pour autant, en son sein, vous allez toujours recruter des jeunes Marocains qui sont partis du Maroc, qui ont fait de belles études à l'étranger, et qui en rien animent une mixité sociale. Donc je rebondis aussi sur l'effet d'affichage autour de la diversité. J'y vois aussi un grand danger. Passer plus de temps à rendre compte de son activité, sur la présence des femmes dans des comités de direction, sur les nationalités différentes, sur la des personnes en situation de handicap. J'ai pas vérifié si ce matin une personne en fauteuil pouvait accéder jusqu'à nous, mais certainement que oui. Certainement que oui. Hein. Ça serait une forme d'égalité, c'est-à-dire en fait lutter dans l'entreprise contre les processus discriminatoires à l'œuvre. Et il y a beaucoup d'enquêtes, notamment nord-américaines, qui sont en train de contredire beaucoup ce mot de diversité et qui reviennent sur l'égalité réelle. Et ça me semble aussi important. C'est comment un DRH arrive à céder à l'injonction des agences de notation sociale, à arrêter de répondre à des tableaux de bord, à arrêter de suivre en sous-main des indicateurs supposés refléter le pays, et agir concrètement, en fait, sur la compréhension fine de sa culture d'entreprise, mais pas comme un bloc, comme une possibilité d'offrir aux personnes la possibilité, oui, de vivre sur plusieurs scènes. Quelqu'un qui est maire ou adjoint au maire de son village et qui, dans le même temps, est responsable d'un atelier de production. Il y a encore beaucoup de dirigeants qui n'arrivent pas à prendre en compte le fait que les compétences mobilisées comme maire pourraient être peut-être utiles aussi dans l'espace du travail et de l'entreprise. Là, on passe d'un modèle, on va dire, centralisé, à un modèle en réseau de réseaux, c'est-à-dire ce que j'appelle, moi, un modèle interculturel, et qui est plus que la diversité, qui est la lutte contre les discriminations, et donc le respect de l'égalité.
Ok, on va prendre encore une ou deux réflexions ou témoignages. Est-ce que...
Les remarques qui viennent d'être faites en soi donnent justement du sens à la notion maillot. Parce que ce qui est clair, c'est que l'entreprise, elle est dans un milieu de bataille permanente, quel que soit le secteur d'activité. Si à un moment donné, les salariés, quelles que soient leurs origines, leurs rites ou autres, etc., ne sont pas fédérés par cet amour du maillot, je dis bien cet amour du maillot, c'est des mots qu'on n'utilise plus en entreprise. Hein. On n'ose plus dire on aime, etc. C'est des mots très affectifs qu'on a bannis, liés au politiquement correct, de la diversité et tout le reste. Je crois qu'une des conquêtes, vous faisiez allusion au DRH, c'est justement de se réapproprier la transversalité du maillot. Je veux dire, il faut partir de la marque. Moi, je suis sidéré, on fait différents sondages dans notre groupe, la marque est devenu un sujet du direction de la communication ou du marketing, alors que c'est l'ADN de l'entreprise. Si on ne part pas de la marque pour quasiment tout justifier dans la posture, le comportement, le modèle de management des différentes politiques, eh bien là, on risque d'avoir des dérives qui font que toutes les entreprises se ressemblent toutes aux yeux des jeunes générations, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Je crois que réhabiliter la marque comme phare identitaire est une vraie piste de réflexion pour les modèles de gouvernance et pour les modèles RH en particulier.
Allez-y, ou alors munissez-vous d'un micro. Non, prenez un micro qui fonctionne, parce que comme on est en direct sur une radio.
Bon, merci bien. Je suis allemand, je vis en France depuis 20 ans et j'enseigne dans des grandes écoles de commerce. Oui. Donc j'aimerais bien revenir au sujet du maillot et du recrutement. En ce qui concerne les maillots, je pense pour le club de foot et d'autres associations sportives, ceux qui ont beaucoup de succès sont ceux qui ont leur propre centre de formation ou qui investissent beaucoup dans la formation. Et je pense qu'il y a dans les grandes écoles de commerce, ou en général dans les écoles de commerce, un grand avantage, c'est les liens très proches entre entreprises et écoles, c'est vrai. Mais je dirais, c'est souvent toujours très informel, ce sont des réseaux. Et plus c'est formalisé, mieux ça se passe. Il y a quelque chose qui a beaucoup augmenté les dernières années, c'est l'apprentissage. Ça, à mon avis, moi je travaille à l'ESSEC, là il y a... on a établi il y a quelques années des tutorats, donc chaque élève choisit un tuteur qui le suit pendant la formation et qui s'occupe aussi des relations avec les maîtres de stage. Et là, on voit très bien, je suis tuteur de plusieurs étudiants, on voit très bien qu'il y a des stages qui rapportent énormément de choses. Et des stages qui sont faits parce qu'il faut faire un stage. Et je pense que ça devrait être dans la responsabilité de chacun de proposer des stages qui rapportent. Et ça peut rapporter pour son propre entreprise, parce que quelqu'un va revenir et dire « c'était bien, j'ai appris quelque chose ». Ou c'est utile pour un autre. On en profite en général. Avec les apprentissages, l'avantage, c'est inscrit à une durée plus longue. Donc forcément, il y a un lien qui s'est créé. Donc pour moi, c'est une voie de recrutement le plus efficace et pas assez utilisée, tout simplement. Il y a, je pense, à mon avis, encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, aussi en Allemagne, où il y a l'apprentissage pour les professions pratiques, mais pas sur les niveaux de Bac plus 5 ou plus. L'autre aspect en ce qui concerne le maillon, c'est pour des jeunes qu'on a envie de changer, de découvrir. Je pense qu'on ne peut qu'encourager. Si quelqu'un fait apprentissage dans une entreprise et après il travaille dans une autre, je pense que si le travail qui a été fait est sérieux, c'est finalement c'est toutes les entreprises qui en profitent. Et donc ce n'est pas une question de manque de loyauté. Si on dit j'ai passé un an chez Bosch, c'était bien, mais je vais découvrir une autre entreprise. Surtout, bien sûr, si on veut travailler à l'étranger.
Ok. Un petit mot d'Harald et Philippe Custin.
On parle de, et j'aime bien le terme de maillot. Il faut qu'on fasse aussi, je pense, attention à trop de procédures, à trop de méthodes mises en place, je dirais, pour intégrer les jeunes générations. Je pense qu'il y a un rôle extrêmement important des managers qui sont en place, qui, eux, doivent justement jouer aussi un rôle de recevoir, d'accompagner, de motiver ces jeunes. Et je pense qu'il est extrêmement important, c'est d'être à l'écoute de ce que disent les jeunes et de leur laisser la place de s'exprimer eux-mêmes. Parce que sinon, on les étouffe, je dirais, avec tout plein de procédures. Le manager va s'y cacher derrière. Le jeune est toujours dans l'attente. Qu'est-ce qu'ils vont me proposer encore d'autre? Mais laissons aussi les jeunes, je dirais, eux s'exprimer et devoir se débrouiller. Je vais être peut-être un peu radical, de les laisser aussi se jeter dans l'eau froide et de devoir se débrouiller eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent des cas où on peut être confronté à une génération qui attend que tout s'organise pour elle. Mais elle ne s'organise pas elle-même. Donc, je pense, et je parle d'expérience personnelle, quand j'ai commencé il y a 25 ans dans le groupe, il n'y avait pas toutes ces mesures. Il a fallu se battre soi-même, créer son réseau, un terme extrêmement important pour moi, et pour les jeunes, de les motiver à créer leur réseau, parce que c'est grâce à leur réseau qu'ils vont aussi faire leur carrière. C'est pas parce qu'il y a une politique de DRH et qu'il y a une volonté de l'entreprise de faire progresser ses collaborateurs, mais je pense que c'est aussi par sa propre démarche de créer du réseau qu'ils avanceront.
Philippe Custin. Et puis ensuite, on laissera la parole à Olivier et à Guy Maugis pour conclure.
Oui, moi je serai très bref. Je rebouclerai avec votre métaphore du maillot qui ne me parle pas beaucoup, je dois dire. Je vais prendre l'exemple de la boutique dans laquelle je suis aujourd'hui. L'éducation nationale, c'est la troisième structure entrepreneuriale publique au monde après l'armée chinoise et les chemins de fer indiens. Donc, problème concurrentiel terrible, c'est-à-dire pour avoir les meilleurs, il faut se battre déjà aujourd'hui, il faudra se battre demain. Et on sait bien qu'un meilleur système éducatif, c'est celui qui recrute les meilleurs et qui les forme le mieux au monde. Et dans ce spectre-là, je pense qu'on a oublié un élément extrêmement important de détenteurs du maillot ou de ceux qui entraînent les porteurs de maillot, sont les organisations syndicales. Alors vous allez me dire, je suis vraiment au cœur des choses avec l'éducation nationale, mais c'est valable ailleurs. Et le DRH de Bosch le rappelait tout à l'heure. Une partie importante des missions que vous avez évoquées de ce que devrait être le DRH aujourd'hui, c'était des missions qui étaient ou qui sont encore exercées aujourd'hui dans une entreprise par les organisations syndicales. Et c'est un acteur, je pense, qu'il ne faut absolument pas dédaigner. On est heureux quand on n'en a pas, mais on en a souvent plus besoin qu'on ne les combat. Donc je crois que dans cette logique aussi de l'évolution de l'entreprise et au sein de l'entreprise des jeunes générations, ce volet de la syndicalisation des agents et des employés de cette entreprise est extrêmement important.
Galophage, tu veux dire un petit mot de soi. Eric Faure.
Je serai assez rapide. En réalité, ce qui me manque un peu dans la discussion, mais peut-être que j'aurais dû intervenir un peu avant, c'était la question de la différence entre donc, les jeunes Français et les jeunes Allemands. Je trouve qu'il y a quand même des différences fondamentales. Ça a été juste évoqué aussi dans le rôle de l'apprentissage au sein des entreprises françaises et allemandes. Et je pense que déjà, à un certain niveau, le rapport à l'entreprise qui forme est complètement différent donc en France et en Allemagne. Et ça, je pense que c'était effectivement important de le dire. D'autre part, il y a la thématique de la mobilité qu'on n'a pas encore vraiment abordée, qui me semble aussi intéressante parce que le concept est différent en France et en Allemagne, notamment pour les jeunes. Qui veulent après s'intégrer dans une entreprise. On a parlé aussi de la relation au stage, qui est encore très différente en Allemagne, puisqu'en France, c'est dans le cadre d'une formation. En Allemagne, le stage est ouvert à tous. On n'est pas forcément dans le cadre d'une formation. Donc effectivement, on est dans des logiques qui sont un peu différentes. Et l'accès pour un jeune dans une entreprise en Allemagne est beaucoup plus facile. C'est déjà, le stage est possible à n'importe quelle situation, n'importe quel statut. Et donc, il y a une espèce d'accueil de l'entreprise du jeune qui, à mon avis, se fait plus facilement. Et les jeunes utilisent d'ailleurs le stage comme moyen d'entrer dans l'entreprise beaucoup plus facilement qu'en France. Donc je trouve qu'il y avait toute une série de petites questions qui sont pas forcément essentielles, mais qui quand même modifient le rapport des jeunes français et allemands à l'entreprise et aussi aux stratégies qu'ils peuvent mettre en place pour le recrutement.
Tout à fait juste, c'est là-dessus qu'on voulait conclure. Tout à fait vrai.
Ah, désolé.
Oui. Voilà, mais... Oui, Eric Faure, moi, mon métier, c'est le comportement, l'évaluation, et puis l'amélioration managériale, comportementale, enfin, relationnelle, commerciale. Je voudrais d'abord faire une petite parenthèse. J'ai un père français et une mère allemande. À ce titre-là, je fréquente les deux côtés du Rhin. Et j'ai des 25 trentenaires des deux côtés. Il y a une première différence, c'est les revenus. C'est que à métier égal, classe sociale égale, je regarde dans ma famille allemande, les revenus, ils sont 10-20% supérieurs. Donc ça, c'est première chose, je voulais dire. Deuxième chose, à contrario, c'est j'ai deux nièces des deux côtés qui ont eu un enfant. Celle en France a pu continuer sa carrière. Celle en Allemagne a dû s'arrêter net. Donc voilà, c'était juste petite parenthèse et témoignage personnel. Moi, je ne fréquente que les grandes entreprises, je ne connais pas les PME, j'ai le bonheur de fréquenter celle-ci, Bosch. Effectivement, Didier l'a signalé, c'est la façon dont ça se passe ici. Ben, malheureusement, ce n'est pas le cas partout ailleurs, hein. Voilà, dans les grandes entreprises. Donc, j'ai juste deux choses à dire sur mon domaine qui est la pédagogie. La première, c'est qu'au niveau des trentenaires et des Y en général, il y a l'adaptabilité est sans rapport avec ce qu'elle est aux générations précédentes. Nous, on a des outils qui servent au recrutement, qui sont des questionnaires, qui permettent d'évaluer le comportement. On avait, dans les générations qui ont aujourd'hui 40-50 ans, il y avait, je grossis le trait, mais il y avait deux grandes caractéristiques. Vous aviez des gens qui étaient plutôt rigoureux, structurés, qui poursuivaient des carrières plutôt techniques ou administratives. Et puis de l'autre côté, vous aviez des gens qui sont plutôt souples, adaptables, qu'on trouvait dans les métiers relationnels ou les métiers commerciaux. Voilà. Quand on fait les mêmes questionnaires auprès de gens qui ont 25-30 ans, eh bien, il n'y a plus du tout des caractéristiques aussi nettes. Et les profils sont beaucoup moins marqués. Et ça les amène à faire des changements beaucoup plus radicaux dans les orientations de carrière, avec une beaucoup plus grande facilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe sur alors pour le coup, une valeur statistique sur des milliers de cas. En fait, pour eux, c'est plus tirer le meilleur de leur comportement, mais de leur style comportemental, puisqu'ils n'ont pas un style comportemental aussi marqué que les générations précédentes, c'est être capable d'avoir le bon comportement au bon moment, qui est devenu l'enjeu pour eux. Donc ça, c'est une première remarque qui concerne l'adaptabilité. La deuxième, c'est ce qui concerne la rythmique. Ils ont des rythmiques qui sont beaucoup plus rapides. Alors moi, je le vois déjà dans l'apprentissage. Quand on demande, quand des gens arrivent dans une formation professionnelle continue, quel est l'objectif? En général, si je prends des générations 40, cinquantenaires, des baby-boomers, ils viennent apprendre quelque chose, progresser dans quelque chose. Presque systématiquement, quand on prend des 25-30, des Y, eux, ils viennent résoudre des problèmes. J'arrive pas à, faut que j'arrive à. Donc, ils n'ont pas la même approche d'apprentissage. On voit aussi d'autres aspects qui sont ceux qui exercent des métiers de téléphone, ce qui est de plus en plus fréquent, surtout sur cette tranche d'âge. En fait, ils veulent proposer une solution, même quand ils ne savent pas. Il y a vraiment un désir, quand le client appelle, de... tout de suite lui proposer quelque chose. Ce qui fait, alors il y a un biais à ça, c'est que du coup, il y a 20% des clients qui rappellent pour le même problème dans la semaine. Troisième, dernier point qui témoigne de ça, mais il y en aurait d'autres, c'est que ils fonctionnent, ça a été abordé de nombreuses fois sur d'autres registres, ils ne fonctionnent pas en organigramme, ils fonctionnent en réseau. Alors, le mot hiérarchie n'a peut-être pas du tout le même sens, et on voit... Un jeune d'un service appelait le manager d'un autre sans prévenir le sien, en toute bonne foi, juste pour accélérer le processus. Voilà, donc je voulais juste zoomer sur ces deux points, adaptabilité, rapidité, parce que ça, c'est les deux constantes que moi j'ai retrouvées au niveau des comportements Y au travail.
Merci Eric. Je te libérerai, Bruno, je sais que tu as un rendez-vous important, si tu veux, on va faire les conclusions rapidement. De toute façon, il y en a pour une petite minute. On voulait savoir un peu ce qu'était cette jeunesse. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on est assez consensuel et finalement les points sont partagés, alors que souvent on pense que c'est un point d'opposition, qu'est-ce qu'une génération Y, pas Y, 15-30, 15-25, etc. Il n'y a pas eu de débat là-dessus, mais plutôt des débats sur leur désir, leur volonté d'avancer, on est, je crois, assez d'accord là-dessus, et sur le fait d'être exemplaire. Alors, on n'est pas encore rentré vraiment dans le franco-allemand, mais c'est aussi l'objet pour nous de multiplier les entrées un peu générales, puis après, d'aller sur le particulier. Les points soulevés par Lefage et par Eric sont extrêmement intéressants. On aurait pu les soulever avec le Goethe ou avec le ministère également. C'est peut-être des points sur lesquels on va revenir après. Quand on a parlé de réseau des réseaux, nous, on sert ici à faire un réseau des réseaux, à se rencontrer les uns les autres. On ne connaît absolument pas au départ ici, et on partage maintenant une matière commune. C'est cette manière commune qu'on va travailler. Il y a aussi des choses très différentes entre la France et l'Allemagne, mais c'est M. Mogis qui en parlera mieux que moi. Je crois que c'est la différence de structuration et de la formation et de l'entreprise. Et là-dessus aussi, nous, on reviendra de manière plus détaillée en spécialiste. Merci à tous, et M. Mogis, je laisse le mot de la fin.
Voilà. Merci. Effectivement, le franco-allemand était un petit peu absent du débat, et puis je pense que c'est pas le moment malheureusement de le réouvrir, sinon on est encore là pour une heure ou deux. Ce que vous pourrez peut-être c'est de reprendre cette expérience un autre jour, hein, puisque moi je l'ai trouvée en tout cas intéressante et enrichissante. Ce que j'en retiens, c'est malheureusement ou heureusement simplement la conviction encore renforcée que le métier de dirigeant devient de plus en plus difficile. Puisque l'attente de la nouvelle génération est encore plus forte, donc il va falloir se montrer à la hauteur, et c'est pas forcément facile, mais en tout cas c'est passionnant. Merci en tout cas pour cette initiative, et merci à tous pour être avec nous ce matin. Merci.